Je vous rappelle, parce que nous n'étions plus très nombreux la fois dernière au moment du question time, que le texte intégral de la conférence de Monseigneur de Kiesel est disponible sur le site internet d'une bonne paroisse du Brabant Wallon. sjoseph.be. Et donc vous avez chacune des conférences à la date où elles ont été données. Ce soir, comme annoncé dans le dépliant qui détaille le contenu de cette session de liturgie, il doit être question, et il sera question, de la participation active des fidèles. Sujet délicat, parce que pastoralement, c'est sans doute, à mon avis, sans nul doute, la question la plus difficile à non seulement à organiser, mais surtout à proposer et à vivre lors des célébrations liturgiques. Mais nous sommes dans un institut de théologie, nous ne sommes pas uniquement à la recherche de recettes pour mieux célébrer, et je dis ça non pas de façon péjorative, loin de moi, mais je voudrais vous proposer, avant de voir le comment favoriser la participation active des fidèles, dont je parlerai en fin de cette rencontre, je voudrais surtout insister sur le pourquoi. Pourquoi les fidèles doivent-ils participer activement à nos liturgies? Et vous devinez sans peine le pourquoi de cet angle d'approche-là, c'est que dans la mesure où nous-mêmes, nous sommes et de plus en plus imprégnés par l'importance et la raison d'être de cette participation, c'est au travers de nos propres charismes, créativité, au travers de nos propres équipes, que nous pourrons alors partager avec d'autres ce que nous aurons nous-mêmes découvert et surtout approfondi. Vous allez retrouver au début de cette rencontre un certain nombre de rappels, de choses qui ont déjà été dites, tant elles me paraissent d'une part fondamentales et d'autre part, c'est un indice que les différents sujets sont amenés avec une certaine progression et j'espère une progression certaine. Nous avons déjà dit et redit que parmi les différents centres d'intérêt du Concile Vatican II, liturgie occupe une grande place et particulièrement l'Eucharistie. On a aussi déjà rappelé que le Concile Vatican II ne s'est pas préoccupé de construire un exposé doctrinal en tant que tel à propos de l'Eucharistie. Le Concile Vatican II veut se situer sur le plan pastoral et il veut surtout permettre aux fidèles d'intervenir dans les célébrations eucharistiques, je le cite, par une participation active, consciente et pieuse, et non pas, je le cite toujours, comme des spectateurs étrangers ou muets. Vous rappelez aussi, nous l'avons vu la fois dernière, que les premiers mots de la première rubrique du missel romain, c'est « lorsque le peuple est rassemblé ». Lorsque le peuple est rassemblé, ces mots-là sont essentiels pour saisir ce qu'est une célébration eucharistique. Ce n'est pas uniquement, je vais y insister longuement tout à l'heure, ne me jetez pas trop vite vos cahiers ou vos biques à la figure, je ne dis pas que la présence du Seigneur n'est pas essentielle, je dis que pour saisir ce qui est véritablement essentiel dans la célébration eucharistique, il est impensable de ne pas intégrer aussi et puissamment, comme on a voulu le montrer la fois dernière, l'assemblée qui est le sujet intégral de la liturgie. L'assemblée parce qu'elle est convoquée par Dieu. C'est pas Tartampion, Jeff, Germaine et Simone, je ne sais, qui sont là et qui ensemble célèbrent. C'est ces personnes-là, ces baptisés, en tant qu'invités, convoqués, Kaal, le terme hébreu qui va donner Ecclésia, l'Église, c'est l'assemblée en tant que convoquée par Dieu pour l'écoute de sa parole, convoquée par Dieu pour la prière et l'action de grâce, convoqué par Dieu pour le champ de ses œuvres, pas simplement intellectuellement, mais également en donnant de la voix, convoqué pour chanter, et enfin, bien sûr, convoqué par Dieu pour obéir au commandement du Nazaréen, faites cela en mémoire de moi. Alors, outre la redécouverte du rôle de l'Assemblée comme sujet intégral de la liturgie, Vatican II a aussi, et c'est la deuxième grande redécouverte, Vatican II a transformé en profondeur l'objet même de la liturgie, et cela, comme vous le savez, en mettant fortement en avant, à l'honneur, l'événement pascal et ses conséquences salvifiques à la fois pour Jésus de Nazareth et pour nous. Et donc désormais, la liturgie catholique ne se comprend que à lumière de ce qu'on appelle l'économie du salut, car l'objet de la liturgie n'est autre que la continuation de l'action pascale du Christ. La continuation de l'action pascale du Christ. Cette continuation et actualisation de l'agir du Christ va permettre de souligner son authentique présence dans la liturgie. Autrement dit, la présence du Christ dans la liturgie est étroitement dépendante, cela va de soi, de son agir pascal. Et je ne résiste pas à cette première parenthèse, c'est que l'agir pascal du Christ, ce n'est pas simplement être actif et avoir de la bougeotte, ce n'est pas simplement être tonique et dynamique, si je puis me permettre d'être un peu plat. En fait, l'agir du Christ, c'est aussi fondamentalement se laisser faire, se laisser toucher par l'esprit de vie qui va loindre, vous rappelez, la corne qui va non pas mettre un petit peu d'huile comme sur le pouce de l'évêque ou de son délégué lors d'une confirmation, mais on en est imbibé des pieds à la tête. Et donc, l'action pascale du Christ est à la fois éminemment active, mais en même temps, elle démarre, si vous voulez, elle procède d'une étonnante passivité, c'est un cadavre, il se laisse ressusciter. Et cet aspect-là me paraît être relativement important à bien nous remettre devant les yeux, car c'est un des aspects, une des critiques, un des regrets qu'on entend si souvent à propos de nos liturgies, à savoir, vous comprenez, monsieur le curé, on est tellement passif à ces machins-là. Est-ce vraiment passif ? Comme on l'a déjà vu, la notion traditionnelle dans l'Église latine de culte, cette notion a été profondément remaniée, notamment, et peut-être de façon décisive, par les travaux d'un moine bénédictin, Odon Casel. Désormais, le culte n'est plus en premier lieu l'action de l'homme qui cherche un contact avec Dieu à travers l'offrande de son hommage et de son adoration, mais au contraire, peut-on dire, l'action liturgique désormais est considérée non pas d'abord et avant tout comme une action de l'homme qui va vers Dieu, mais comme une action de Dieu qui va vers l'homme, une action salutaire de Dieu, puisque au travers de l'action liturgique, le Christ est rendu réellement présent dans le rite, et il faut comprendre dans l'entièreté du rite. On ne sera jamais trop y insister. Le Christ sera présent dans le rite eucharistique, pas simplement dans ce qu'on appelait dans le temps la consécration. La présence du Christ au cœur de l'Eucharistie, c'est l'ensemble de l'action. Ce terme d'action, j'ai déjà aussi beaucoup évoqué, vous allez vous rendre compte qu'effectivement je vieillis parce que je me répète, mais c'est tellement essentiel de bien voir à quel point la liturgie désormais est fondamentalement centrée, elle est fondamentalement fondée sur de l'action, et une action dont Dieu prend l'initiative de part en part, une action, nous le verrons bientôt, qui donc appelle une réaction, non pas en tant que spectateur muet, mais une réaction de participation. Ce terme d'action était familier à l'époque des pères de l'Église. Il va être repris par ce qu'on appelle le mouvement liturgique avec un grand M, lancé par cet autre bénédictin, dont Lambert Baudouin, au début du XXe siècle, et en mettant à ce point en avant la liturgie comme action, on a voulu souligner que la liturgie implique un agir qui conduit à un résultat objectif et effectif indépendamment des impressions ressenties par ceux qui participent à cette action. Je ne dis pas que les fruits pour chacune et chacun sont indépendants de la participation de ceux qui participent à l'action liturgique, mais l'effet visé par l'action liturgique n'est pas lié à la subjectivité personnelle et individuelle de chacun de ses participants. En fait, l'insistance bien connue de Vatican II quand le Concile, dans la Constitution sur liturgie, parle de, je cite, « de restauration et de progrès de la liturgie », son insistance dans ce cadre de la restauration de la liturgie, une insistance sur la participation de façon consciente, active et fructueuse à l'action liturgique, trouve ici son explication principale. Car la qualification d'active demandée à 12 reprises dans la Constitution sur la liturgie, vous aurez les différents numéros dans les notes des notes, cette invitation à participer activement à la liturgie, en fait, ne désigne pas n'importe quelle bougeotte, mais désigne cette implication agissante à l'actio qu'est la liturgie. Le latin parle non pas de activus, mais de actuosus. Autrement dit, et c'est une première conséquence, me semble-t-il, tellement importante pour le, si je puis me permettre, pour le terrain de nos célébrations, c'est que l'action liturgique ne peut être véritablement agie que dans la mesure où elle est un minimum comprise. Quel est le sens d'une action sans signification? Ça, c'est de la magie. C'est, j'ai déjà raconté cette histoire, hein, quand j'étais petit, enfin plus petit, on avait reçu un jour à Saint-Nicolas la panoplie du parfait prestidigitateur. J'ai raconté cette histoire. Hein, Hocus pocus passa. Donc, comme si ces paroles transformées, hic est corpus meum, comme si cette parole avait un effet magique et qu'il suffisait matériellement de les prononcer. En travaillant dans une thèse doctorat sur le rôle de la liturgie dans l'élaboration du dogme, en particulier chez Saint-Augustin, j'ai l'occasion de constater, à ma grande surprise, que, je vais essayer de vite terminer cette parenthèse, mais elle est intéressante, me semble-t-il, que au départ, à l'origine de l'Église, la liturgie n'était pas du tout uniforme. On entend ça chez certains, pas conservateurs, mais des intégristes chagrins, qui disent « Ah, le bon temps !» Donc, enfin, je parle de personnes qui ne sont pas bien formées. « Ah, le bon temps !» Au moins, à l'origine de l'Église, il n'y avait pas toutes ces originalités, toutes ces variantes. On célébrait de la même manière. C'est archi-faux. En réalité, la célébration de la liturgie, et en particulier de l'Eucharistie, variait d'une Église à l'autre. Ce n'est pas l'uniformité qui était la règle du tout. D'ailleurs, la formulation même de la consécration variait. Pourquoi ? Parce que la liturgie était orale. Il n'y avait pas d'écrit. Il a fallu attendre les années 300-400 avant qu'on ne mette par écrit la liturgie. Comment voulez-vous qu'on prononce exactement les mêmes mots partout, alors qu'en réalité, c'était oral et que le texte n'est pas contraignant ? Et en plus, on ne voulait pas d'une littéralité. On ne voulait pas des textes qu'on allait réciter mot à mot. Pourquoi ? C'est ce que faisaient les païens. Donc, je vais essayer quand même de rapidement terminer la parenthèse, mais je trouve ça vraiment intéressant. Chez Tertullien, qui ne manque jamais d'une flèche dans son carquois, hein, donc c'est un redoutable polémiste, Tertullien se moque des liturgies officielles païennes. En l'occurrence, il donne l'exemple d'une liturgie romaine, donc de la cité romaine de Rome, et il explique de mémoire que, en fait, ça se passe comment ? Il y a du monde, ils sont forcés d'y venir, il y a du monde, et puis il y a le célébrant qui dit les paroles. Pour être bien sûr que ce soit strictement les paroles qui sont dites, il y a un souffleur qui lui dit ce qu'il doit dire, juste avant que le célébrant ne le dise. Et comme probablement l'attention n'est pas maximale, il y a un joueur de flûte pour calmer le bruit de la foule. Et donc, on sent que ce littéralisme-là, les chrétiens n'en veulent pas. Du reste, c'était la consigne qu'avait donnée le maître. Ils s'imaginent que c'est à force de formules ou de prières ou de mots qu'ils vont se faire exaucer. Pour vous, ne priez pas ainsi. Voyez-vous ? Donc, la littéralité, les formules en tant que formules, ce n'est pas cela qui est véritablement déterminant dans l'esprit de ceux qui vont progressivement proposer les célébrations chrétiennes telles que nous les connaissons, bien que au fil de l'histoire de la liturgie, il y a eu pas mal de modifications. Mais donc, je donnais cette parenthèse à propos de cette affirmation que l'action liturgique ne peut être véritablement agie que dans la mesure où elle est comprise. Ce n'est pas le mot à mot, ce n'est pas ce qu'on appelait dans le temps le rubricisme, l'observation stricte des rubriques qui va faire grandir les fidèles dans une participation active. Mais bien, outre leur présence et leur disponibilité à l'action de l'esprit, leur intelligence, non pas qu'ils doivent être des cérébraux. Quand je fais un plaidoyer pour l'intelligence, je ne songe pas à ce qu'on appelle des intellos. Mais l'intelligence, je crois l'avoir déjà dit ici aussi, c'est un très beau mot français qui vient du latin, hein, intus legere, quand on traduit lire dedans, c'est tout faux. Hein. Vous vous retrouvez au mois de septembre. Intus legere veut dire choisir entre, choisir parmi. Et donc l'intelligence au sens étymologique, allez voir le grand dictionnaire de Alain Rey, le dictionnaire historique de la langue française, si vous ne me croyez pas, et j'espère qu'on l'a lieté, je ne l'ai pas vérifié. En fait, intelligence signifie que parmi différentes significations possibles, vous savez, la signification, c'est comme la palette d'un peintre. Il y a une série de couleurs, et encore dans les couleurs qu'il a, il se débrouille pour les mélanger, pour encore avoir une couleur qui n'est pas exactement sur sa palette. La véritable intelligence, c'est celle qui, parmi différents sens disponibles, fait son choix. Et cette question de choix et cette question de sens, elle est capitale. Encore une fois, je ne sais plus si je l'ai dit ici, parce que j'ai l'occasion de mener plusieurs sessions de front. En fait, ce qui est caractéristique du christianisme, je crois que je vous l'ai dit, la caractéristique du christianisme, ce n'est pas simplement d'annoncer l'événement, mais également la signification de l'événement. Je crois l'avoir dit. Je vois des sourires parce que à chaque cours, après, je me débrouille pour remettre cela sur le métier. C'est tellement essentiel. Nous ne sommes pas des professeurs d'histoire, mais au travers d'événements, nous sommes chargés, et d'une certaine manière, Dieu compte sur nous, pour que nous transmettions aussi le pourquoi. Alors, vous allez me dire, mais il a déjà dit ça 10 fois. Oui, mais ça va être extrêmement important dans un moment, quand on va se concentrer davantage sur l'Eucharistie et sur notre participation à l'Eucharistie. Un autre rappel, qui est un autre grand accent du Concile Vatican II, c'est l'importance donnée à l'Ecclésia, qui est le sujet des actes liturgiques. Et donc, puisque l'Église a une telle place au cœur même de la célébration liturgique, et cela, troisième parenthèse, enfin pour ma part, je suis extrêmement reconnaissant à Monseigneur de Kiesel d'avoir évoqué la dimension ecclésiale de la liturgie comme il l'a fait, en partant de ce vieux texte patristique, et puis en expliquant, on s'y croirait, si vous voulez, donc c'est une analyse très, d'un certain côté, phénoménologique, donc il décrit ce qui se passe, et progressivement, il en donne l'intention. Si vous ne vous souvenez plus bien, allez voir sur Internet, c'est une conférence qui vaut vraiment la peine d'être approfondie, me semble-t-il. Et donc, si l'Église a une telle place, et on y reviendra, il s'ensuit que la participation active des fidèles est fondée, outre la réponse attendue à l'action première de Dieu, la participation active des fidèles est fondée dans la nature même de la liturgie comme activité du corps mystique du Christ. Et ensuite, la participation active des fidèles repose, s'appuie sur le droit et le devoir qu'a le peuple chrétien en tant que, je cite la première lettre de Pierre, en tant que race élue, sacerdoce royal, nation sainte, peuple racheté. Autrement dit, c'est ce fameux aspect du sacerdoce universel des fidèles que nous avons reçu lors du baptême. Je vous rappelle, quatrième parenthèse, que le fameux sacerdoce universel des fidèles ne signifie pas que tous sont prêtres. Ça signifie que dans la mesure où nous sommes effectivement reliés les uns aux autres en faisant église, c'est en tant que joints ensemble au corps mystique du Christ que nous participons à son unique sacerdoce. Je referme cette parenthèse. D'autre part, dans l'importante section que la Constitution sur la liturgie réserve à la révision des livres liturgiques, Vatican II exige, je cite, « de veiller attentivement à ce que les rubriques prévoient aussi le rôle des fidèles ». La participation de l'Assemblée comme telle à la totalité de l'acte sacramentel de l'Eucharistie, donc la participation à l'entièreté de l'acte sacramentel qu'est l'Eucharistie, est un point dogmatique et non pas simplement un point de discipline liturgique. Qu'est-ce que je veux dire ? Pour rendre compte dogmatiquement de l'Eucharistie, il ne suffit pas de scruter la nature du don que Dieu y fait dans l'Eucharistie. Pour rendre compte dogmatiquement de l'Eucharistie, il ne suffit pas de scruter le mode du don que Dieu fait à travers l'Eucharistie. Et enfin, pour scruter la nature dogmatique de l'Eucharistie, il ne suffit pas non plus de souligner la manifestation, si le mot existe en français, la visibilisation de la nature communionnelle de l'Église au travers des rites eucharistiques. Qu'est-ce qui manque ? Il faut mentionner l'Amen, le Amen que prononce chaque communiant en recevant le pain et la coupe sanctifiée. Il faut également ajouter cet autre Amen par lequel l'Assemblée s'engage autour des gestes et des paroles du prêtre. Pour faire sienne la parole du prêtre à l'autel, il n'est pas nécessaire de la dire avec lui. Ce n'est pas une question de synchronisation, mais de communion. C'est là que se greffe l'amen de l'Assemblée, un amen qui manifeste l'unité de l'Église de Dieu, qui est diverse en ses fonctions et qui, en réalité, est diverse aussi en ses ministères. Et c'est là que se manifeste à la fois la pluralité des services, des missions et des ministères et l'unité du corps du ressuscité. Tous célèbrent et offrent. Tous célèbrent et offrent. Alors, en deçà, en dessous, plus fondamentalement, de tout ce qui vient d'être rappelé à propos de la place de l'Ecclésia, l'originalité de l'Eucharistie tient sans doute prioritairement à la confession de Jésus de Nazareth comme ressuscité d'entre les morts et à l'accomplissement de sa promesse de nous donner son Esprit Saint. En fait, du point de vue de l'histoire de la liturgie, l'action qui exprime et qui sous-tend cette confession du ressuscité et de sa promesse, cette action a été posée dès les origines du christianisme, au premier jour de la semaine, jour anniversaire de la résurrection, et non pas le jeudi ni le vendredi après-midi. Ce choix-là, avoir choisi comme jour de l'Eucharistie le premier jour de la semaine, commente puissamment ce que les exégètes appellent le « Sitzim Leben », donc ce que les Allemands appellent « das milieu de vie », donc le milieu de vie des rites qui ont été retenus par l'Église primitive pour faire Eucharistie. Le fait qu'on ait choisi le dimanche matin, enfin, en fait, ça se passait la nuit du samedi au dimanche, une espèce de, comme ce qu'on a retrouvé grâce à Pie XII, au niveau de l'actuelle veillée pascale. Donc on passe un bon temps de la nuit à évoquer la geste de Dieu au travers de ses faits et gestes dans la parole de Dieu, tant Ancien que Nouveau Testament, et puis à l'apparition du jour, à l'aube, on célèbre la présence du ressuscité pour anticiper sa venue dans la gloire. En parlant dans un moment du concept de mémorial, nous allons avoir l'occasion de rappeler combien, si vous me permettez le mot, l'arrachage de Jésus au séjour des morts ne doit pas être isolé ni en amont ni en aval. En amont de sa résurrection, Jésus va retourner le sens des événements dans lesquels il s'est trouvé pris suite à la trahison d'un de ses meilleurs amis. Il va retourner le sens des événements dans lesquels il est livré. Alors qu'on le livrait au sens de le trahir, Jésus va se livrer lui-même au sens où il va se dessaisir de sa vie par amour de Dieu et de ses amis. Ça, c'est en amont. Et en aval de la résurrection, comme dit le chapitre 5 des Actes des Apôtres, c'est lui, avec un grand L, que Dieu a exalté par sa droite comme prince et sauveur. Ou pour le dire comme saint Paul, nouvel Adam, le ressuscité est désormais un être spirituel qui donne la vie. 1 Corinthiens 15. Et il importe ici, une fois encore, de brièvement faire le lien avec l'origine de l'Église. Et donc, sur ce point, je ne suis pas tout à fait du même avis de ce que j'ai compris, de ce qu'a dit Mgr de Kesel, qui évoquait, si ma mémoire est bonne, le fait qu'il y avait comme une espèce de préexistence de l'Église à l'action et à l'œuvre de Jésus. Car dans les traditions consignées dans le Nouveau Testament, la réalité de l'Ecclésia, la réalité de l'Église, son existence même, est inséparable, radicalement, de l'événement de la résurrection du Nazaréen. Et cette relation entre l'Église et la résurrection ne vient pas uniquement de ce que cet événement de la résurrection constitue un par-delà la mort avec Jésus qui est passé en faisant le bien. Quel est le lien entre l'Église et la résurrection? C'est aussi de ce que la résurrection de Jésus implique une nouveauté et donc, par certains aspects, une rupture. Ce sont la nouveauté et la rupture qui, en fait, s'identifient avec ce qu'on appelle l'ouverture des temps eschatologiques. Et donc, l'Ecclésia est entièrement liée à cette irruption de l'eschatologie. Bon, je me rends compte que c'est peut-être un peu très technique comme langage, j'espère pas comme charabia, mais donc c'est assez facile à comprendre, c'est tellement essentiel et en fait si peu présent dans nos spiritualités, parfois même liturgiques, cette dimension eschatologique. Cinquième ou sixième parenthèse, tout ce qu'on appelle l'Ancien Testament est comme tendu, comme pointé vers ce jour, si j'avais une pomme de terre, je le dirais mieux, ce jour, le jour en question, et qui est le jour de Yahvé. Tout est tendu vers l'avènement du jour de Yahvé, qui, en fait, est considéré comme la manifestation, cette manifestation de Dieu, où, véritablement, la fin sera là. Donc, au-delà de cela, il n'y aura plus d'action de qualité comparable à celle-là. Et ce que la première Église a découvert, c'est que ce temps de la fin, ce temps qui inaugure la fin, à savoir, on est dans le jour de Yahvé, donc on est sans cesse promis à une présence avec lui, eh bien, cette irruption de l'eschatologie, c'est Pâques. En ressuscitant son Fils, Dieu a permis l'inauguration de ce temps nouveau, avec la promesse qui était jointe à ce jour de Yahvé, à cette nouveauté, à savoir le don de l'Esprit Saint, tant décrit, notamment chez Ézéchiel. Et donc, si c'était moi qui avais pu faire le calendrier, je n'aurais pas Milan zéro à Noël, mais bien à Pâques, dans la mesure où, pour le chrétien, ce n'est pas la naissance comme telle de Jésus qui va ouvrir l'étang dernier dans lequel nous sommes, mais bien sa résurrection. Et j'y insiste parce que l'Eucharistie, geste résurrectionnel par excellence, est un geste éminemment eschatologique. Traité que je connaisse, le seul bouquin de théologie qui intègre véritablement la liturgie dans sa réflexion, pas simplement comme un argument supplémentaire en disant « et d'ailleurs, mon raisonnement est juste parce que la liturgie dit ceci ». Non, c'est un méthodiste, Geoffroy Wainwright, ça s'appelle « Eschatology », et c'est un traité d'eschatologie qui en fait, pas un peu comme a fait Mgr de Kesel, qui observe la place de l'eschatologie, de l'attente du Seigneur au cœur même de la célébration eucharistique, et qui à partir de cette observation, lex orandi, lex credendi, la loi de la prière est norme pour la foi, essaye de réfléchir sur la spécificité de l'eschatologie pour un chrétien, au point de vue dogmatique, au point de vue spiritualité, et également au point de vue contemplatif. L'eschatologie est la grande parente pauvre, je crois, de nos liturgies. Et l'eschatologie n'est pas loin de la petite fille ou la petite sœur Espérance de Peggy. C'est bien de cela, en tout cas en Occident, qu'on a hautement besoin. De ce point de vue-là, pas mal d'Africains ont des choses à nous dire au niveau de la place effective de l'espérance dans leur quotidien, je pense. Et donc, en fait, l'Ecclésia, elle surgit de cette nouveauté eschatologique que Jésus apporte à Pâques. Et déjà, dans les grands discours missionnaires de Pierre, qu'on retrouve notamment au chapitre 2 des Actes des Apôtres, la Pentecôte surgit dans un temps précis. Quand ? Les jours derniers, acte 2, 17, qui constituent l'objet de la promesse, acte 2, 33 et 39. Et donc, le témoignage apostolique, le témoignage des apôtres, prend en quelque sorte le relais de la présence physique expérimentée de Jésus avant Pâques, ce Jésus qu'on écoutait, qu'on suivait, mais dont désormais on proclame l'œuvre salvifique et la présence tous les jours jusqu'à la fin des temps. Alors, comme disait volontiers Albert Chapelle dans ses cours, faisons un pas de plus. C'était très... Quand nous avions du temps, j'étais à l'IET, on avait chaque année une revue à la Saint-Nicolas, je ne sais pas si ça existe toujours. Et le pauvre Albert Chapelle, chaque année, faisons un pas de plus, donc il y avait des slash. Et... Bref, je passe ces détails qui n'ont rien à voir ici, si ce n'est que le père Chapelle était un homme également, je vois dans le colloque qui lui est consacré, je suis un tout petit peu au regret que la dimension liturgique n'y soit guère mentionnée, à moins que j'ai mal lu, parce qu'il s'y attachait beaucoup. D'après les textes de Paul et de Luc, Jésus aurait dit à ses disciples, à son dernier repas, « Faites ceci en mémorial de moi. » Faites ceci en mémorial de moi. Alors, ce terme « mémorial », qui est rendu par le grec « anamnèse », traduit un mot hébreu « zikkaron ». Et ce vocable « zikkaron » est utilisé à propos de la Pâque juive, dont le récit s'achève ainsi, au chapitre 12 de l'Exode, « Ce jour-là sera pour vous un mémorial. » Et donc, ce zikkaron mémorial est beaucoup plus que le simple mot « souvenir » en français. Le zikkaron mémorial veut dire que la fête célébrée est la reprise actuelle de l'événement qui en est l'origine. La fête célébrée est la reprise actuelle de l'événement qui en est l'origine. Et donc, la traduction française « en mémoire de moi »,« faites ceci en mémoire de moi », est trop faible. Il faudrait traduire plus activement en disant « faites ceci pour faire mémoire de moi ». Vous allez me dire, ça c'est bien, les théologiens, ils discutent sur des mots. Mais c'est plus qu'une discussion sur les mots. C'est en fait, c'est qu'elle le dit, en fait c'est un « faire » et un « faire » pour. Ces paroles-là, « faites ceci pour faire mémoire de moi », Jésus les a prononcées au cours d'un repas, qu'il a pris avec les siens quelques heures avant son arrestation. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire à propos de ces paroles? Vous allez voir que je n'oublie pas le sujet de ce soir, à savoir la participation active des fidèles. Mais je vais vous proposer un angle d'approche. On verra tout à l'heure, au moment des questions, si ça tient la route. En fait, les paroles que Jésus a prononcées ce soir-là ont une telle importance pour ses disciples et pour l'Église qu'il est extrêmement difficile d'essayer de retrouver les termes que Jésus lui-même aurait utilisés. Et parmi les nombreux exégètes qui s'y sont risqués, j'apprécie beaucoup, pour ma part, un exégète allemand, Heinz Schurmann, dont vous trouvez également la référence dans les notes. Et c'est un livre qui a été traduit en français dans la collection Lectio Divina, « Comment Jésus a-t-il vécu sa mort ?» Je sais qu'il date de 1977, mais ça reste, à mon avis, un très très grand livre. Et Heinz Schurmann explique que les actions et les paroles, dit-il, testamentaires, qu'il nous a laissées comme un testament, lors de son dernier repas, c'est bien, en fait, grâce à ces paroles et grâce à ces gestes, que l'on va pouvoir éclairer l'attitude de Jésus devant la mort et le sens qu'il donne à cette mort. J'insiste beaucoup sur ceci. Et je reviens à mon dada, transmettre la foi, c'est transmettre l'événement et le sens. L'important pour nous, ce n'est pas simplement de savoir comment Jésus, éventuellement psychologiquement, se situait par rapport à sa mort. L'important n'est pas savoir non plus qu'il est conscient qu'il va mourir le lendemain. Mais l'important, c'est aussi, et peut-être pour nous surtout, de découvrir le moins mal possible quel sens donne-t-il comme jeune à cette mort-là, violente. Qu'est-ce que ça a comme sens? Il a entre 30 et 36 ans. Et donc, à la veille de cela, comment le comprend-il? C'est d'autant plus intéressant que c'est un moment tout à fait décisif d'une existence humaine. Quand on est face à la mort, on est en général assez authentique. Enfin, je n'ai pas encore l'expérience, mais dans tous les témoignages qu'on entend, c'est pas un moment où on triche volontiers. En ouvrant ce repas qui avait bien le caractère d'un repas d'adieu, Jésus prend, comme à son habitude, une galette de pain et il prononce au nom de tous l'action de grâce à Dieu pour le pain qu'il fait germer et qui nourrit la vie des hommes. Jésus rompt ce pain et il tend un morceau à chacun. Il tend un morceau à chacun. Mais au geste, et ceci est beaucoup plus inattendu, il ajoute une parole. « Ce pain, virgule, c'est mon corps pour vous. » Ce pain, c'est mon corps pour vous. Et c'est ainsi que le geste devient une symbolique du don que Jésus fait de sa vie pour ses disciples. Pour dire ça autrement, Jésus dit une parabole en acte de ce qu'il va vivre le lendemain. Et, par ses paroles, il en livre le mystère, en tout cas la signification qu'il lui donne à ses disciples. Les gestes du dernier repas de Jésus disent ceci, la certitude de foi, que le don de soi vécu jusqu'au bout, jusqu'au don de sa propre vie, est conforme à l'agir de Dieu. Que Dieu dise le dernier mot, « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Et c'est parce que cette mort concerne ses disciples que Jésus les implique eux aussi dans l'action. Il les mouille. Il ne se contente pas de dire une parole, mais il fait un geste qui ne peut qu'appeler la participation. Vous comprenez, ça c'est tellement essentiel. Alors, disons maintenant quelques mots sur la coupe. C'est que le don du pain et le don de la coupe, en ces moments-là, exceptionnels, ont d'abord une signification pour Jésus avec ses disciples à ce moment précis. Et quand on regarde les choses de près, ces deux actions, rompre le pain et le donner, boire, bénir la coupe et la partager. Ces deux actions ne sont pas simplement la reprise de gestes qui caractérisent les repas juifs. Il y a des différences spécifiques et elles sont essentielles entre ce qu'on appelle désormais les gestes eucharistiques et la coutume juive des repas. Et la différence, elle est significative d'une donation de sens spécifique. En fait, vous le savez sans doute, on a remarqué, et ici encore je suis Heinz Schumann, on a remarqué que, contrairement à la coutume habituelle dans les repas juifs, même dans le repas pascal, il y a dans la célébration chrétienne, en corrélation à la présentation du pain à tous, la présentation d'une coupe unique. Et donc, en fait, que fait Jésus? Il prend sa coupe, qui est, si vous voulez, est celle du père de famille dans tout repas juif, et il tend sa coupe à tous les commensaux, à tous ceux qui l'entourent, aux 12, même à Judas, pour qu'ils boivent. Et il souligne la particularité de ce geste en disant « Prenez-la et partagez entre vous » Luc 22, 17. Ou encore Marc 14, 23 et ses parallèles « Et ils en burent tous ». On n'a pas démontré que l'usage d'une coupe commune ait été l'usage courant dans les repas de fête. Et les quelques exceptions qui sont attestées montrent que c'est bien l'exception. Et donc, il faut comprendre ceci. Par la présentation tout à fait inattendue de sa propre coupe de vin à tous ses disciples, Jésus, ici encore, a cherché à impliquer ses amis à sa propre oblation. Il a voulu associer ses disciples à son destin de juste souffrant. Et il l'a fait en partant de la signification symbolique de la communion aux mêmes nourritures. Il l'a fait par un geste expressif entre mille, en donnant. Tu veux ? Et lorsque les apôtres, un à un, ont pris le pain et ont pris la coupe, ils ont en fait répondu au don. Ils l'ont accueilli. Qu'est-ce qu'un don qui pend en l'air ? Je donne, mais bon, c'est une mauvaise poêle, ou celui-là, c'est un œuf, et donc je ne prends pas son cadeau. Qu'est-ce que c'est qu'un don comme celui-là? Et donc, je ne sous-estime pas la grandeur du don du Christ, mais au cœur même de l'Eucharistie qui célèbre son don, il y a aussi l'accueil de ce don. Et donc, vous me voyez venir au niveau de la participation active des fidèles. Cet appel à la participation au drame du salut est absolument central dans une réflexion renouvelée sur l'Eucharistie. Et rituellement, il faudrait, si on avait le temps, on l'a déjà un peu évoqué la fois précédente, il faudrait parler ici, bien sûr, de ce geste de la fraction du pain, qui, une fois encore, n'est pas simplement là pour pouvoir partager pour que tous, enfin que le plus grand nombre possible puisse en bénéficier, mais vous rappelez, à travers ce geste, il y a comme la création d'un vide, comme un dépouillement de soi, comme une kénose, où Jésus se donne pour que nous puissions participer à sa propre vie. Il faut souligner que cette manière de considérer le récit de la dernière scène souligne ceci. C'est que le sacrement de l'Eucharistie n'est pas constitué seulement par le corps, par le pain et le vin en tant que corps et sang du Christ. Mais le sacrement de l'Eucharistie, ce n'est pas uniquement le pain et le vin, transsubstantié, pour employer la théologie classique, en corps et en sang du Christ, mais c'est aussi le sacrement de l'Eucharistie, la célébration tout entière, avec tous ses gestes, prendre, distribuer, manger, boire. La célébration tout entière avec tous ses gestes et avec toutes ses paroles, qu'il s'agisse de paroles de prière ou des paroles qui expliquent la nature du pain et du vin. Ceci est mon corps, ceci est le calice de mon sang. Vous savez que dans les évangiles, il y a deux traditions à propos du dernier repas de Jésus. Il y a d'une part dans les évangiles synoptiques la tradition du repas cultuel. Et d'autre part, il y a chez saint Jean le lavement des pieds qui se trouve à la place du repas cultuel chez les trois autres. Mais tant le repas cultuel que le lavement des pieds visent la communion, l'avoir part avec Jésus notre Sauveur. Si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas de part avec moi. Avoir part, participer. Au don de soi, que signifie le repas eucharistique, correspond le don de soi que symbolise le lavement des pieds. Le disciple se doit de servir pour donner pleine vérité au culte. Et Luc a explicité ce devoir de service dans les paroles que Jésus adresse aux douze après l'institution de l'Eucharistie, au chapitre 22 de Luc, et Jean l'a précisé en caractérisant cela par l'amour. S'aimer les uns les autres, Jean 13, 35. Et de l'amour même de Jésus, parce que, pour ceux qui aiment la grammaire, quand Jésus dit « Aimez-vous les autres comme je vous ai aimé », ce « comme », septième parenthèse, n'est pas un « comme » d'imitation, mais c'est un « comme » de participation. Ce n'est pas simplement un « comme » qui est comme un miroir devant lequel on se rase le matin, mais c'est un « comme » qui, en fait, plonge dans l'amour même de Jésus et qui participe à son amour à lui. De l'amour même dont moi je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. C'est ça que ça veut dire. C'est pas simplement, écoutez, moi je suis quand même le plus mieux et je vous fais saliver et essayez d'être comme moi. Jésus n'est pas ainsi. En fait, la grande affaire depuis tout jeune, c'est de permettre à ses amis de participer à ce qu'il a et à ce qu'il est. Et donc, je disais que s'aimer les uns les autres, de l'amour même de Jésus, c'est, à vrai dire, la réalité même symbolisée par la célébration de l'Eucharistie. Cet amour fraternel est le signifiant, ce qui fait signe de la charité divine qui, elle, constitue et anime la communauté des disciples du Christ. Pour ceux qui sont férus de théologie, les théologiens classiques parlaient à ce sujet-là de sacramentum et tres. Donc en fait, c'est cette réalité qui est déjà là, présente, et qui fait signe à la réalité, donc la réalité, l'amour mutuel, et la réalité qui fait signe à la réalité par excellence, qui est l'amour de Dieu en personne. La messe réitère le rite des premiers chrétiens, qui ont en fait repris et explicité l'action de Jésus à la scène. En ce sens, il y a réitération, non pas du repas tel que Jésus a pu le vivre, mais réitération des gestes et des paroles rituelles sur le sens que Jésus leur a donné. Et voilà pourquoi le célébrant proclame le récit eucharistique et le gestualise. Il prononce ainsi les paroles de Jésus telles que Jésus les a rapportées. Vous ferez cela pour faire mémoire de moi. Le cela, c'est bien sûr la fraction du pain et le partage de la coupe, mais c'est aussi ce que cette fraction et ce partage représentent dans la vie de Jésus à laquelle nous communions, à savoir la donation amoureuse de sa vie pour nous. Faites, c'est bien une action, c'est un passage à réaliser, c'est une donation, sans doute une action tout intérieure, mais inscrite dans des gestes dont le principal est celui de communier, mais pas le seul. Et telle est du reste la signification que les historiens croient pouvoir retrouver derrière les récits qui nous ont été conservés la dernière scène, à savoir unir étroitement ses disciples en une communauté de destin avec le sien par leur étroite association au drame du salut. Les premiers chrétiens ont bien saisi cela. En effet, du point de vue de la tradition ancienne, je ne dis pas que c'est la seule valable, mais il est clair qu'on a la privilégiée, du point de vue de la tradition ancienne, dont la liturgie continue à se faire écho, la catégorie de mémoire est beaucoup plus importante que celle de présence. Du point de vue proprement chrétien, la présence demande à être comprise à partir de la mémoire. Et cette mémoire, oserais-je le rappeler, est une mémoire qui rappelle la donation pour vous. S'il y avait encore un peu de temps, je devrais vous rappeler ici que cette présence eucharistique du Seigneur est indissociable de l'épiclèse, bien sûr. C'est l'Esprit qui vient sanctifier le pain et le vin pour en faire le corps et le sang du Seigneur, afin, souligné trois fois au bic rouge, afin que ceux qui participeront à cette communion soient rassemblés en un seul corps. J'y ai déjà beaucoup insisté dans des rencontres précédentes. Il me reste 10 minutes pour conclure par le sujet du jour, à savoir comment favoriser la participation des fidèles à la liturgie. Je vous proposerai 4 pistes de réflexion qui sont, à mon avis, nécessaires toutes les 4. La première chose pour favoriser la participation des fidèles à la liturgie, c'est d'expliquer et de rappeler ou de rappeler la nature même de la liturgie chrétienne. L'action liturgique est un moment de l'action salutaire de Dieu, puisque le Christ est réellement rendu présent dans le rite, dans une séquence de rites. Cette action, je l'évoquais tout à l'heure, appelle une réaction à la fois personnelle et communautaire. Autrement dit, il est fondamental de dire et de redire aux chrétiens qui célèbrent avec nous à quel point liturgie est une action de Dieu. Il s'y passe quelque chose. Et cette action appelle leur intense réaction. Deuxième aspect, le don de soi, signifié par Jésus dans ses paroles et dans ses gestes à la dernière scène, appelle un contre-don. J'emploie ici une expression que certains reconnaissent peut-être, cela vient d'un grand théologien sacramentaire actuel français, Louis-Marie Chauvet, et vous trouverez donc quelques référence à cet aspect dans les notes, dans les notes des notes. Donc, il fait cette distinction entre le don, hein, proposé, donné, offert par Dieu, et le contre-don. Car, dit-il, le don, eh bien, il est d'abord révélation. Il est manifestation du donateur. Et on voit ça à Noël. Bon, il se fait tard, et donc c'est le moment de raconter des petites histoires. En famille, chez nous, hein, donc j'ai 4 sœurs, donc j'ai subi une tyrannie féminine, puisque j'étais le seul garçon. Et donc, en fait, on a décidé, depuis, comme dans beaucoup de familles, à Noël, on se fait un petit cadeau, hein, maximum 5 euros, qui n'a pas été indexé. Alors, pour 5 euros, bon. Alors, c'est clair que dans les cadeaux qu'on reçoit chacun, se manifeste la chipie qui me l'a donné. Donc, je veux dire que la personnalité de celle qui me donne un cadeau, par exemple, celle qui trouve que la bière, enfin, c'est quand même un peu trop mon penchant, donc quand elle m'ouvre un nouveau bouteille, quand elle me donne un nouveau bouteille, c'est peut-être pas génial comme cadeau. Ou une autre, enfin bref. Donc, je veux dire que, bête exemple, le don, je prends un exemple idiot, le don manifeste le donateur. Vous allez me dire, ça va de soi, mais c'est une perspective qui est étonnante, hein, dans le cadre de l'Eucharistie. Le don, d'abord, hein, est révélation. Il manifeste le donateur. Ensuite, à travers le don, si on ne parlerait pas de don, il y a rencontre entre les personnes. Autrement dit, en termes plus philosophiques, le don sert à créer un rapport. C'est le but du don. Comment voulez-vous vivre l'Eucharistie coupé de ce rapport? Donc vous voyez venir pour la participation active des fidèles. C'est inhérent à ce qui s'y passe au cœur de ces rites. Le don sert à créer le rapport. Accepter un don signifie être engagé. Si, en sortant d'ici, vous recevez une contravention et que par bonheur le flic est encore près de votre voiture, hein, et que vous lui glissez un billet de 5, 10, 15, 20 ou 50 euros, s'il l'accepte, ben, vous n'aurez sans doute pas de contredanse, mais ça en dit long, et sur le corrupteur, et sur le corrompu. Donc, autrement dit, accepter le don signifie d'être engagé. Il y a, dans la logique du don, une logique d'engagement. Et parmi les théologiens modernes, quelqu'un l'a admirablement montré, me semble-t-il, c'est Hans Urs von Balthasar, Bon, vous savez qu'il a écrit beaucoup, 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 beaucoup de lignes de livres. Et après la gloire et la croix, comment s'appelle la seconde partie de sa trilogie? C'est. Non, attendez. Bon, enfin, c'est quand même fort, ça. Il y a 5 ou 6 livres. Ça me rappelle quelqu'un qui faisait une conférence, une retraite à Saint-Balais, comme ça, et qui me dit. Ah, tiens, même. Attendez, l'auteur. Le titre. Mais vous devez le lire. la gloire. Je ne sais. Mais bref, donc sa deuxième grand volet de sa trilogie, von Balthasar l'a résumé dans un tout petit livre qui s'appelle « Dans l'engagement de Dieu », que je vous conseille beaucoup de lire si vous cherchez une lecture. De même que la première grande partie, « La gloire et la croix », il l'a condensé dans un tout petit livre qui s'appelle l'amour, je l'avais sur le bout de l'œil maintenant. L'amour. Quoi? L'amour est digne de foi. L'amour est digne de foi, c'est bien ça. Alors, donc, ce que je voulais dire, c'est que au cœur de l'Eucharistie, il y a le don et le contre-don. Accepter le don signifie rester engagé. Et c'est bien en ce sens qu'il faut comprendre l'exhortation paulinienne, Romains 12, 1 ou Romains 15, 16, à savoir que nous sommes invités à s'offrir soi-même en sacrifice saint, vivant et agréable à Dieu pour un culte spirituel. Si Paul recourt à la catégorie sacrificielle, ce n'est pas pour souligner la souffrance, mais bien pour souligner l'offrande, l'oblation à Dieu. Le sacrifice a pris place tardivement dans la réflexion néo-testamentaire sur le salut. Il a été fortement mis en avant, surtout par la lettre aux Hébreux, quasi exclusivement, et le sacrifice a eu droit de cité dans la réflexion chrétienne sur le salut, non pas parce qu'on a mal, mais parce qu'on donne et on se donne, quoi qu'il en coûte. C'est la dimension oblative qui est essentielle, pas la souffrance, mais une oblation qui est prête à tout, même à souffrir, par amour. Donc, expliquer ou rappeler la nature même de la liturgie, qui est une action de Dieu, qui appelle notre réaction. 2, le don de Dieu appelle un contre-don. 3, les actions liturgiques, je cite ici le Concile, ne sont pas des actions privées, mais des célébrations de l'Église, qui est le sacrement de l'unité. Je vous l'ai déjà évoqué quelques fois, plus au moment des questions que dans les conférences proprement dites, à mon sens, la grande, grande difficulté dont souffre la célébration des sacrements aujourd'hui, c'est sa dimension d'Église. C'est la perte de conscience, hein, à quel point l'Église fait l'Eucharistie et l'Eucharistie fait l'Église. C'est une espèce de dilution, hein, de la véritable dimension ecclésiale de notre être ensemble autour de l'autel du Christ. Il faut y insister d'autant plus sur cet aspect ecclésial que les siècles précédents ne nous ont pas beaucoup habitués à une assemblée tout entière célébrante. De nombreuses pratiques aujourd'hui encore contrecarrent cette visée, ne serait-ce que dans des équipes liturgiques qui préparent les messes, comme on dit. Souvent, on s'y contente de préparer ou de prévoir la mise en œuvre de la liturgie de la parole, éventuellement de la bénédiction au final et surtout de l'envoi. Mais on laisse le soin au prêtre de faire le reste. C'est pas juste. C'est pas juste quand on prépare une célébration de ne prendre que la partie liturgie de la parole et éventuellement l'envoi. C'est l'ensemble de la liturgie qu'il faut prendre, tout en respectant chacun des intervenants, bien sûr. Pour faire sienne la parole du prêtre, il ne faut pas nécessairement la dire tout avec lui, mais il faut être en communion avec lui. Et enfin, ça m'a beaucoup frappé dans la conférence de Mgr de Kesel, je le reprends à ce texte, il a beaucoup insisté la semaine dernière sur l'importance de l'écoute de la parole de Dieu. Rappelez-vous, il disait « Il n'y a pas d'un côté l'Église et de l'autre l'Eucharistie. C'est précisément par l'écoute de la parole et par la célébration de l'Eucharistie qu'un rassemblement devient Église. » Alors c'est le quatrième et dernier point que je voudrais souligner pour favoriser la participation à la liturgie, c'est aider l'assemblée qui nous entoure, l'aider à l'écoute et lui faire découvrir que cette écoute est une écoute en Église, pas simplement pour moi, pas simplement pour ce que j'en ressens, mais que dans l'acte même d'écouter, on fait Église. Voilà, ce ne sont pas des recettes très géniales, mais elles sont, me semble-t-il, tellement fondamentales, elles sont liées à ce que nous avons vu jusqu'ici dans notre parcours liturgique, à savoir la nature même de la liturgie en général, de l'Eucharistie en particulier, qui de soi appelle à une participation active. En fait, nos chrétiens, si je peux parler de façon un peu paternelle, nos chrétiens sont très, très demandeurs de mieux comprendre le mécanisme de l'Eucharistie, son fonctionnement, pas simplement comment les deux parties s'articulent, c'est déjà très bien, mais de découvrir au fond, mais qu'est-ce qu'il y a en dessous de tout cela ? Et en dessous de tout cela, il y a leur participation qui est indispensable parce qu'elle est constitutive de la célébration. Et ça, pour pouvoir le découvrir, je pense qu'il faut le dire. Faut-il le dire pendant les sermons ? Disputatio inter doctores, l'homélie fondamentalement doit partager la parole de Dieu et pas faire un cours. Mais, oui, non, je vois des hochements, mais j'insiste. Un jour, j'ai assisté comme ça à un mariage, je concélébrais, et le prêtre était un professeur de sacramentaire, et puis j'ai vu une première feuille à quatre tournées, une deuxième à quatre, une troisième à quatre, il y avait cinq à quatre, hein, et une partie de son cours sur le sacrement du mariage. Ce n'est pas le lieu. Ouvrir l'assemblée à la liturgie, à la parole, et faire un lien, si possible témoignant, avec la dimension active, je dirais proactive, que Dieu attend de chacun d'entre nous, y compris bien sûr du célébrant. Et c'est ce que nous verrons à la fois prochaine, c'est la place de la présidence dans cette célébration, bien entendu arc-boutée sur le rôle de l'Assemblée. On va faire un break ici.